Bonjour à vous.
Bonjour, bonjour à tous. Au moment de l'affaire Kerviel en 2008, où la Société Générale avait perdu près de 5 milliards d'euros, l'État français était venu au secours de la banque et lui avait fait un cadeau fiscal. Est-ce que ce cadeau était justifié alors que la justice vient de désigner la banque en partie responsable de ses pertes? La question se pose, on verra ça dans ce journal.
Dans ce journal, nous irons aussi à Alep.
Ville martyre, sous un déluge de bombes depuis la nuit dernière, le régime et son allié russe intensifient les bombardements aériens en vue, semble-t-il, d'une opération terrestre. Charlotte, aux États-Unis, toujours sous tension, après qu'un homme noir a été abattu par la police. La femme de la victime a fourni une vidéo de l'intervention de la police à la télé américaine, mais cette police refuse toujours de donner ses propres images.
Et puis on reviendra en France, prendre des nouvelles de François Bayrou.
Avant, il représentait le centre, et maintenant, en tout cas, l'université d'été du MoDem se tient aujourd'hui. Mais d'abord, on va beaucoup en parler aujourd'hui, ces familles blessées ou traumatisées lors de l'attentat du 14 juillet à Nice qui rendent visite au pape aujourd'hui. Environ 180 personnes, croyants de différentes confessions et même non-croyants, s'envolent ce matin direction le Vatican. Le pape va les recevoir en audience privée. C'est la mairie de Nice qui finance ce déplacement. Deux avions ont été affrétés, David Giacomo.
Alexandre assistera tout à l'heure à l'audience du pape en compagnie de sa femme. Le soir du 14 juillet, ce trentenaire niçois court après le camion et tente d'ouvrir la portière. Il lâche prise quand Mohamed Lawesh Boulel pointe son arme vers lui. Alexandre ne se dit pas particulièrement croyant, mais il attend de cette rencontre avec le pape François de l'apaisement.
Un message de paix, un message de réconfort. Parce que bon, ce qu'on a vécu, c'est pas facile. On a peut-être des pensées qui partent un peu dans tous les sens. Un peu, voilà, par moments, je me sens pas bien. J'ai un peu de haine qui remonte en moi. Donc peut-être que ça va m'apaiser, des paroles d'un pape. Ça peut m'apaiser, quoi.
Vincent Delomel Desmarais est le secrétaire général de l'association de victimes Promenade des Anges. Et il était important pour lui que des représentants du culte musulman soient également invités.
Bien sûr, c'est important que ce soit une réunion œcuménique avec tous les cultes monothéistes qui soient représentés. Ce voyage est important pour nous. C'est un message qui va nous permettre aussi de commencer nos deuils.
Au total, 56 familles de victimes de l'attentat de Nice vont assister à l'audience prévue à midi au Vatican. Deux blessés lors de l'attaque de Saint-Étienne-du-Rouvray sont également du voyage.
Le reportage David Di Giacomo pour France Culture. Après la décision de la Cour d'appel de Versailles dans l'affaire Kerviel, quid du bonus fiscal accordé à la Société Générale en 2008? Jérôme Kerviel, hier, a été condamné à verser 1 million d'euros de dommages et intérêts à la Société Générale et non pas les 4,9 milliards d'euros équivalents aux pertes de la Banque française lors de l'affaire en 2008. Donc, l'État avait alors octroyé un bonus fiscal de 2,2 milliards d'euros à la Banque pour compenser ses pertes. Sauf que la Cour, dans son arrêt hier, estime que la Société Générale a des responsabilités dans ce fiasco financier. Le gouvernement a donc chargé ses fonctionnaires de regarder si le bonus fiscal d'alors était justifié. Une demande bien timide de la part du ministre de l'économie Michel Sapin. C'est en tout cas l'avis de Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, co-auteur du livre Kerviel, une affaire d'État, 2 milliards d'euros pour la Société Générale. On l'écoute.
Bah c'est hyper timide. Écoutez, c'est pas comme si on avait trop d'argent. 2,2 milliards d'euros, c'est le budget entier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est 30 euros par Français. C'est 5 fois l'affaire Tapie. Et on sait que Christine Lagarde, elle va être poursuivie pour avoir agi avec négligence dans l'affaire Tapie. Mais là, c'est la même négligence. C'est-à-dire que Christine Lagarde l'a donné sans attendre la décision de justice. Et là, on a Michel Sapin qui tarde à récupérer l'argent, alors qu'on sait que son administration, elle a déjà enquêté sur le sujet. C'est une enquête qui date de 2012. Ils sont demandés en 2012 pourquoi est-ce qu'ils avaient payé en 2009. Alors, ça peut sembler bizarre, mais du coup, on sait quelle est la réalité matérielle de la situation de la Société Générale. Et puis, il faut enquêter sur toute la situation fiscale, et pas uniquement l'année 2008. Là, il y a peut-être un loup. Michel Sapin, qui a pris comme directeur de cabinet un ancien dirigeant de la banque Société Générale, tarde à récupérer les sommes qu'on lui a données à la Société Générale.
Julien Bayou, donc le porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, et co-auteur du livre Kerviel, une affaire d'État, 2 milliards pour la Société Générale, aux éditions Arcane 17. La ville de Belfort se mobilise aujourd'hui pour sauver l'usine Alstom et ses salariés, ses 480 salariés. En début d'après-midi, une manifestation est organisée par les élus et les syndicats de la ville. La ville a aussi appelé les commerçants à fermer leurs portes une heure dans la journée par solidarité, opération Ville Morte.
Les fusils d'assaut de l'armée française ne seront plus made in France.
Adieu le FAMAS, place au HK416F allemand. Ce choix a été attendu depuis quelques semaines, mais il a été officialisé hier soir. D'ici l'année prochaine, l'armée française va doter progressivement ses nouveaux soldats de fusils d'assaut. David Philippot.
C'est un choix qui n'a pas surpris les spécialistes. Le fusil d'assaut allemand a passé haut la main les tests de la Direction Générale de l'Armement, mieux que les quatre autres concurrents qui avaient répondu à l'appel d'offres. C'est une arme qui équipe déjà les troupes du GIGN et des forces spéciales, et son atout principal, c'est d'avoir prouvé sa fiabilité depuis 10 ans sur tous les terrains d'opération, comme en Irak ou en Afghanistan. Le HK-416F équipe les armées de 10 pays, dont celle des États-Unis, où il a remplacé le célèbre M4 des GIs en France. Il va donc succéder au FAMAS, en service depuis presque 40 ans, produit phare de la manufacture de Saint-Étienne, fermé depuis 2001. À partir de l'an prochain, plus de 100 000 exemplaires, fabriqués en Allemagne, vont être progressivement livrés à l'armée française pour un contrat, selon le journal Les Échos qui avait révélé l'information, de 300 millions d'euros. Deux députés de la commission de défense de l'Assemblée nationale avaient regretté que les conditions fixées n'aient pas permis aux PME françaises de concourir à l'appel d'offres.
David Philippot à Berlin pour France Culture.
Direction donc la Syrie, où un déluge de feu s'abat sur les quartiers rebelles d'Alep.
Au moins 45 civils, dont 6 enfants, ont été tués dans les bombardements. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, le bilan pourrait encore s'alourdir. Des bombardements menés par le régime syrien et son allié russe, Laure Stéphane.
Ce sont des images diffusées par des activistes des médias de l'Est d'Alep qui disent l'horreur vécue par les habitants de ces quartiers sous contrôle rebelle, bombardés sans répit par les forces du régime syrien et de son allié russe. Un homme au visage hagard qui tient dans ses bras un enfant mort recouvert d'un tissu, des secouristes qui s'affairent sous les décombres, des monticules de gravats dans les rues. La journée d'hier a été particulièrement meurtrière. Depuis jeudi, les raids aériens sont incessants. Ils s'étaient déjà intensifiés depuis le début de la semaine. Hier, les frappes ont touché deux centres des casques blancs, des secouristes qui opèrent dans les zones de l'opposition. L'Est d'Alep a déjà subi d'intenses campagnes de bombardement au cours des derniers mois, mais ces jours-ci, les raids sont tels que les secouristes sont impuissants face à l'ampleur de la violence. En plus de ces frappes et de la crise humanitaire, l'Est d'Alep vit aussi dans la menace d'une offensive terrestre. Selon des responsables de l'armée syrienne, dont les propos sont relayés par les médias d'État, les bombardements aériens sont le prélude à des opérations au sol. Cette nouvelle escalade dans la bataille d'Alep se déroule sur fond d'impuissance de l'ONU, dont les convois destinés à l'est de la ville encerclés sont toujours bloqués à la frontière turco-syrienne, sur fond aussi de contacts entre Moscou et Washington qui n'ont jusqu'ici apporté aucun signe d'apaisement.
À Beyrouth, la correspondance de Laure Stéphane. On l'apprend ce matin, un homme armé d'un fusil a fait irruption cette nuit dans un centre commercial de l'État de Washington, au nord-ouest des États-Unis. Il aurait fait au moins 3 morts et des blessés, selon la police locale. L'auteur est en fuite. On ne connaît pas ses motivations. Toujours aux États-Unis, la tension est toujours très forte à Charlotte, où le débat se crispe autour de la publication de la vidéo de l'arrestation de cet homme noir abattu par la police. La compagne de la victime a fourni à la chaîne de télé NBC une vidéo qu'elle a elle-même tournée, où on ne voit pas grand-chose, c'est vrai, mais elle soutient que son mari n'était pas armé. La police dit le contraire, Frédéric Carbone.
Ce sont les images d'une femme témoin de la mort de son mari. Rakia Scott interpelle les policiers et les implore de ne pas tirer. La bande son est glaçante. On a l'impression, pendant une interminable minute, de vivre l'inexorable chemin vers une issue fatidique. À un moment, cette femme lance aux policiers que son mari n'a pas d'armes et qu'il est confus parce qu'il a un traitement médical. À un autre, elle s'adresse directement à lui.
Keith, get out the car.
Elle lui conseille de sortir de la voiture, de ne pas laisser les policiers briser les vitres. C'est à ce moment-là que des coups de feu éclatent. « J'espère que vous ne l'avez pas tué », lance l'épouse qui se précipite avec sa fille auprès du corps allongé par terre. Cette vidéo explique la position de la famille qui, depuis 3 jours, refuse la version policière d'un homme menaçant et refusant d'obéir aux ordres. Ces images ne donnent toutefois aucune réponse sur la présence ou non d'une arme. On ne voit presque rien de ce qui se passe autour du véhicule. La police continue d'affirmer qu'une arme a bien été retrouvée et elle suggère qu'elle portait l'empreinte de la victime.
Frédéric Carbone depuis Washington. La police américaine refuse d'ailleurs de rendre publique sa propre vidéo de l'arrestation. Vidéo qui est également demandée par Hillary Clinton, qui se rendra à Charlotte dimanche prochain, la semaine prochaine. La décision est favorable à Ali Bongo. La Cour constitutionnelle du Gabon a validé cette nuit la réélection du président sortant. C'était son opposant, Jean Ping, qui avait saisi la Cour contestant les résultats. Des résultats serrés. Cette décision laisse craindre de nouvelles violences après des émeutes meurtrières début septembre. Après la décision de la Cour constitutionnelle, Ali Bongo a appelé aussitôt au au dialogue au nom de l'intérêt du pays. Son opposant, Jean Ping, n'a pas laissé entendre qu'il était prêt à coopérer avec le gouvernement. Élection, mais cette fois-ci en Grande-Bretagne. Élection pour la tête du plus grand parti d'Europe, les travaillistes britanniques, au Royaume-Uni. C'est aujourd'hui qu'on saura officiellement si Jeremy Corbyn, le très contesté chef de l'opposition travailliste, reste à la tête du parti. Il est en concurrence avec Owen Smith, un député peu connu. Près de 550 000 militants ont voté ces dernières semaines dans un climat tendu. Le résultat sera annoncé donc en fin de matinée, au début du congrès qui se tient à Liverpool et qui s'annonce, disons, au minimum houleux, Antoine Gignot.
Plusieurs parlementaires le disent, si Jeremy Corbyn reste à la tête du parti, l'explosion est inévitable. À 67 ans, le leader barbu qui roule à vélo prône l'accueil des migrants et affiche son hostilité face à l'armement nucléaire a pour l'immense majorité des militants une image de héros défenseur des valeurs de gauche. Il a réussi en l'espace d'un an à fédérer les déçus du blairisme et à faire entendre son discours anti-austérité. Mais les députés élus en 2015 sur un programme de gauche modéré dénoncent de leur côté une dérive. Pour eux, Corbyn et ses supporters ressemblent à une secte trotskiste qui tenterait de noyauter le parti et qui pourrait faire perdre des sièges aux prochaines élections. Cet été, les parlementaires travaillistes ont approuvé une motion de défiance à une majorité écrasante, suivie de démissions massives parmi les cadres du parti. Et même si Jeremy Corbyn assure désormais qu'il fait pousser un olivier sur son balcon pour distribuer des rameaux en signe de paix, la réunion d'aujourd'hui risque de prendre des allures de bataille rangée.
Antoine Gignot pour France Culture.
France Culture, il est 8h11, suite du journal Paul Ferrier.
Et retour en France, c'est François Hollande en visite aujourd'hui dans un centre d'accueil pour migrants à Tours. C'est l'épineux dossier du camp de migrants calaisien à démanteler qui est au cœur de cette visite. Initialement, le chef de l'État se rendait à Tours pour assister au congrès national des pompiers. Il s'y rend quand même, mais il va donc aussi, avec notamment Bernard Cazeneuve, visiter un centre d'accueil et d'orientation, l'une des quelques 160 structures à destination des migrants bloqués dans des campements. D'ailleurs, François Hollande se rendra lundi à Calais. Que reste-t-il à François Bayrou ? Au centre, ils sont désormais très nombreux à se positionner, Juppé, Macron. Pourtant, le maire de Pau veut rester en embuscade, se présenter à la présidentielle de 2017 si Nicolas Sarkozy remporte la primaire à droite. François Bayrou réunit ses troupes ce week-end à Guidel dans le Morbihan pour l'université de rentrée de son mouvement politique, le MoDem, Stéphane Robert.
Il y a encore quelques mois, quand on lui posait la question d'une éventuelle nouvelle candidature à la présidentielle, François Bayrou affichait un sourire énigmatique et confiant. « On verra », répondait-il, « on verra, nous n'y sommes pas encore ». Mais on voyait bien dans la petite lueur qui s'était allumée dans ses yeux qu'il se voyait plus que jamais à un avenir à l'Élysée. Son plan s'est dessiné à l'annonce de l'organisation d'une primaire de la droite et du centre. En tant qu'observateur averti de la vie politique, Bayrou sait qu'une primaire mobilise d'abord et avant tout les militants les plus fervents, les plus politisés d'un mouvement politique. Et il sait aussi qu'à ce jeu-là, Nicolas Sarkozy est le plus habile à caresser leurs convictions et leurs revendications. Bref, il est persuadé à l'époque que même si Alain Juppé est largement favori dans les enquêtes d'opinion, c'est Sarkozy qui va l'emporter. Un Nicolas Sarkozy encore une fois droitisé à l'extrême. Et qu'entre ce Sarkozy-là et un François Hollande largement démonétisé, il y a un espace politique tout grand, tout bleu, qui peut s'ouvrir à lui. Un espace au centre qui peut regrouper à la fois la gauche déçue du hollandisme et ceux qui, à droite, ne veulent pas du retour de Sarkozy. Seulement aujourd'hui au centre, cet espace est occupé par un Alain Juppé qui, même s'il a été rattrapé par son rival dans les enquêtes d'opinion, ne s'est pas effondré comme Bayrou l'avait supposé et qui reste en position de l'emporter. Et puis il y a aussi cette espèce de trublion sorti du chapeau de François Hollande, l'ex-ministre de l'économie Emmanuel Macron, qui navigue un coup à gauche, un coup à droite, exactement dans son sillon. Bref, à quelques mois du premier tour de la présidentielle, l'horizon de François Bayrou est beaucoup moins clair qu'il ne l'avait espéré.
Stéphane Robert pour France Culture et cette espèce de troublion, comme dit Stéphane Robert, sera Emmanuel Macron sera aujourd'hui à Lyon pour un rendez-vous des progressistes européens. Ce colloque est monté depuis des mois par son fidèle soutien, le sénateur maire socialiste de Lyon, Gérard Collomb. Beaucoup d'invitations avaient été lancées dès le début de l'été pour ce colloque. Et bien beaucoup ont pris soin d'annuler parmi les représentants du PS quand ils ont appris la venue d'Emmanuel Macron. Un mot de foot et le PSG bien loin de son lustre. Deuxième défaite de la saison. Hier soir, les Parisiens se sont inclinés 2-0 à Toulouse. La météo et un samedi va faire très très beau. Soleil pour tout le monde et même chaleur cet après-midi. 21 degrés sur la pointe Bretagne, 23 à Marseille et Besançon, 26 à Paris, jusqu'à 30 degrés du côté de Bordeaux.